Europe 1. C'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous venez de publier une note sur les conséquences stratégiques de la crise du coronavirus. Alors vous n'êtes pas le seul à tenter d'imaginer l'avenir, le monde d'après, comme on dit, mais même si vous prenez beaucoup de précautions, est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que l'incertitude de cette maladie et de cette crise ne rend pas l'avenir tout aussi incertain?
Le but du jeu, dans la prospective, c'est de réduire l'incertitude. Autrement dit, d'essayer de faire des scénarios, de voir quelques grandes tendances. Mais évidemment, je ne prétends pas plus que d'autres d'avoir des certitudes sur le monde d'après. Il me semble qu'en revanche, on peut d'ores et déjà esquisser quelques grandes tendances. Mais je crois que le but n'est pas, encore une fois, de prédire le monde de demain, ouais, mais d'essayer de voir quels sont les scénarios les plus probables, ou plutôt les moins improbables.
Entre ceux qui disent tout va changer et ceux qui pensent que rien ne sera fondamentalement bouleversé, où vous situez-vous ?
Je suis très clairement entre les deux. Je crois qu'on voit cette double tentation à chaque grande crise, à chaque grand choc géopolitique. En général, ceux qui disent tout va changer, on se retrouve démentis par les faits. Et ceux qui disent rien ne va changer sont eux aussi démentis par les faits. Donc moi, je suis très clairement entre les deux. Beaucoup de choses vont changer, bien sûr. Ce qui me paraît en tout cas quasiment certain, c'est que ceux qui disent nous allons entrer dans un monde totalement différent se trompent, encore une fois. C'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est ce qu'on dit après la crise financière de 2008, c'est ce qu'on a dit après d'autres grandes crises. Le monde sera un peu différent, oui, mais je crois qu'il ne faut pas négliger la capacité de la société mondiale à reprendre ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans de nombreux domaines.
Qu'est-ce qui vous fait penser, alors sur le plan politique, et c'est une hypothèse très discutée, qu'est-ce qui vous fait penser que le populisme ne sortira pas renforcé de cette crise ?
Alors soyons clairs, je fais le pari effectivement que le souverainisme va sortir gagnant de la crise, mais qu'en revanche le populisme de gouvernement, je dis bien de gouvernement, ne sortira pas grandi de la crise. Le populisme de gouvernement, c'est en gros, c'est Trump, c'est Johnson, c'est Bolsonaro si vous voulez. Et ceux-là, ils n'ont ni montré l'empathie vis-à-vis de leur population nécessaire à la gestion de grandes crises qui font peur, ni des solutions de politique convaincantes sur le plan sanitaire. Donc je crois que cette double faiblesse, cette double faute, si j'ose m'exprimer ainsi, leur sera très certainement reprochée en sortie de crise, même si pour l'instant on a encore le phénomène de ce qu'on appelle le ralliement autour du drapeau, et il y a un effet de légitimité qui fait qu'on a confiance dans les dirigeants, que ce soit Emmanuel Macron, Boris Johnson ou d'autres dirigeants dans le monde. En revanche, le populisme tout court, c'est-à-dire la méfiance vis-à-vis de l'expertise, de la science, vis-à-vis de la technocratie, lui, il est bien vivant et il le restera. Mais je crois que c'est le populisme de gouvernement qui n'en sortira pas forcément grandi.
Mais vous avez remarqué, et c'est frappant cette semaine en France et dans d'autres pays, qu'il n'y a pas que des populistes pour dire, comme l'a fait Trump et Johnson aussi à un moment de la crise, c'est une folie ou c'était une folie d'arrêter l'économie.
Oui, c'est vrai, c'est un débat. D'abord, c'est un débat sain, c'est un débat légitime, c'est un débat nécessaire. Il s'agit pas de dire qu'il fallait préserver à tout prix les vies humaines au détriment de l'économie. D'abord, c'est un faux débat, puisque quand il n'y a plus d'économie, les conséquences sanitaires peuvent être extrêmement importantes, y compris sur la mortalité. Mais je crois que c'est un débat, c'est un débat quasi scientifique. À un moment, il faut faire la part des choses. C'est d'ailleurs ce que font les politiques. On est toujours en train de choisir entre deux mots. Il faut toujours choisir le moindre. Et il y a un moment où, effectivement, il faut se poser la question, et ça n'est pas du tout populiste, effectivement, se dire à quel moment est-ce qu'il faut faire repartir l'économie pour que le pays ne soit pas par terre et qu'on ait dans 6 mois ou 1 an des conséquences sanitaires encore plus grandes. Donc c'est un débat tout à fait légitime.
Conséquences probables de cette crise, écrivez-vous Bruno Tertrais, le retour de la puissance publique, le retour des États, expliquez-vous.
Oui, là je ne suis pas le seul à le dire évidemment, mais je crois qu'on est en train de se rendre compte que ni les organisations internationales, ni les entreprises privées ne peuvent se substituer à l'action d'un État centralisé ou fédéral pour organiser la réponse sanitaire à l'échelon du territoire de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. Donc si vous voulez, quand je parle du retour des États, ça veut dire tout simplement que on va assister à une remontée ou une poursuite de la remontée de ce qu'on appelle en France le souverainisme, avec certainement un contrôle des frontières, là pour le coup, qui va durer. Il ne s'agit pas de dire que les frontières vont rester fermées, mais que la tendance qu'on voyait depuis quelques années au renforcement du contrôle des frontières, au détriment de leur ouverture et du laisser-passer, c'est une tendance qui va s'accélérer. Vous savez, les grandes crises sont toujours des accélératrices de tendances. Donc le ralentissement de la mondialisation, la montée du souverainisme et le retour de la puissance publique, là je crois que ce sont des tendances qui sont effectivement, pour lesquelles on peut dire qu'on est quasiment dans le registre de la certitude plutôt que de la probabilité.
C'est ce que vous appelez la revanche des frontières, mais on entend aussi des prédictions sur, non pas le ralentissement, comme vous venez de le dire, mais sur la fin de la mondialisation. Ça vous semble absurde ?
Écoutez, la fin de la mondialisation, ça fait à peu près depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis le début de la mondialisation, en 1990, qu'on l'entend. Dans cette crise, comme dans toutes les grandes crises, chacun projette ses propres certitudes, ses propres fantasmes et ses propres préférences. On était déjà dans une phase, depuis la crise de 2008, dans une phase de ralentissement de la mondialisation, y compris parce que tout simplement, on se rend compte, c'est pas seulement pour des raisons sanitaires, mais on se rend compte que être aussi dépendant des pays asiatiques et notamment de la Chine a peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. On s'en rend compte bien sûr pour ce qui est de la fabrication des masques par exemple, mais c'est un exemple que l'on peut répéter à l'infini. Et aux États-Unis, ce mouvement, il se double d'une défiance de plus en plus grande vis-à-vis de l'évolution du régime politique chinois, car on a depuis 2012 un autoritarisme, voire un expansionnisme croissant de la puissance chinoise. Donc vous avez à la fois des facteurs économiques et des facteurs militaires. Là-dessus se greffe une crise sanitaire qui fait qu'on va probablement assister à un début de découplage. Plutôt que de fin de la mondialisation, je parlerai de découplage probable, de découplage croissant entre les économies de l'Asie de l'Est et les économies occidentales, et surtout entre les États-Unis et la Chine et la Chine et l'Europe.
Merci Bruno Tertrais, votre note à lire sur le site de la Fondation pour la recherche stratégique. Et je rappelle votre dernier livre, le choc démographique chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci à vous. Europe 1.